partir de août, Timothée sera là pour prendre la relève et assurer la suite de la vie de l'Église. Donc ce matin, pardon, je voudrais partager avec vous un texte de l'Évangile de Marc, au chapitre 4. Nous lisons les derniers versets de ce chapitre, le verset 35 à 41. Ce passage de la tempête apaisée. Alors nous lisons donc Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus donc a passé quelque temps là, dans la région, à enseigner. Et Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc ici, nous nous trouvons en principe sur une mer, d'après ce texte. Mais Matthieu nous parle aussi d'une mer. Dans l'évangile de Luc, il est parlé d'un lac. En réalité, si on regarde la carte qu'on va mettre sur les écrans, on se rend bien compte qu'il s'agit d'un lac. C'est en pleine terre, vous voyez, tout en haut, le petit point bleu, où il y a le gros 1 dessus. C'est un lac. On ne peut pas dire autrement, hein. Il n'y a pas la mer autour. La mer, c'est en bleu, là, sur la gauche, la Méditerranée. Donc, il s'agit bien d'un lac, qui est d'ailleurs relativement petit. Il fait 200 km² à peine, c'est-à-dire à peu près deux fois la surface de Paris. Et alors, j'ai trouvé quand même que c'était assez étonnant qu'il y ait une tempête sur un lac, sur la mer. C'est normal, c'est fréquent, mais sur un lac, il peut y avoir des mouvements un peu de mais rien de très méchant. Donc j'ai cherché à savoir pourquoi il y avait une tempête sur ce lac. Et voilà ce que j'ai trouvé. Je vous communique mes recherches. Alors d'abord, il se trouve que ce lac est situé au pied du mont Hermon. Et le mont Hermon, on ne le voit pas là, mais il culmine à plus de 2800 mètres. Et voilà, il y a donc depuis ce mont Hermon, des vents violents qui descendent les pentes du mont et s'engouffrent dans la vallée du Jourdain. Vous voyez le petit trait bleu au-dessus, c'est la vallée du Jourdain, et qui se jettent dans le lac et provoquent des tempêtes aussi puissantes qu'inattendues. Et c'est pour ça que ce lac, on l'appelle aussi une mer, parce qu'il a des tempêtes équivalentes à celles d'une mer. Donc, on sait pourquoi il y a des tempêtes sur le lac. Voilà, vous êtes bien renseignés maintenant. Mais on entend beaucoup de chrétiens s'interroger sur les raisons de tempêtes qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Comme s'il s'agissait quelque chose d'étrange. Les habitants de Galilée connaissaient bien ce phénomène qui provoquait des tempêtes sur le lac. Mais les chrétiens ne semblent pas connaître les phénomènes qui provoquent des tempêtes dans leur propre vie, et ils s'étonnent. Et laissez-moi vous dire que c'est étonnant de s'étonner. Parce que, souvenez-vous, Jésus lui-même avait prévenu ses disciples. Dans Jean 16, au verset 33, il dit clairement, Vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous vous souvenez? Vous connaissez ce texte? Ou encore, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 4 au verset 12, Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Et Jacques, lui, il va encore plus loin. Jacques 1, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous êtes prêts à supporter tout ça? Alors vous allez peut-être penser que pour être chrétien, il faut être un peu masochiste. Mais non, frères et sœurs, vivre en chrétien, être chrétien, c'est vivre dangereusement. Il faut avoir la foi. Parce que c'est ce que dit Jésus à Pierre, qui s'appelait encore Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Satan cherche toujours à nous atteindre. C'est son objectif. Mais Jésus dit, j'ai prié pour vous, pour toi. En l'occurrence, là, c'était Simon, afin que ta foi ne défaille point. Donc voilà, nous devons être rassurés parce que nous savons que Jésus est assis à la droite du Père et qu'il prie pour nous. Et je crois que, justement, le problème des disciples dans cette histoire, c'est que c'est leur manque de foi. D'ailleurs, Jésus leur dit ouvertement, « Comment n'avez-vous point de foi ?» Parce qu'effectivement, ils ont les disciples avec eux dans la barque. On ne peut pas mieux faire. Mais ils sont dans une terrible angoisse, à tel point qu'ils réveillent Jésus. Et il y a presque des accusations dans leurs paroles. « Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions ?» Il y a un autre texte qui dit, une autre traduction, « Cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Alors je me demandais si ce n'était pas des fois un peu notre attitude, sans le formuler explicitement, d'entretenir une sorte de ressentiment à l'égard du Seigneur à cause des difficultés que nous connaissons, des luttes dans notre vie de chaque jour, des épreuves qui nous atteignent et dont parfois il nous semble que nous ne sortirons jamais. Et dans ce texte, les textes de Pierre et de Jacques en particulier, il est parlé d'épreuves, mais il faudrait plutôt lire tentation. Les deux mots en grec sont le même, épreuve et tentation. Or, l'épreuve à laquelle ils sont soumis n'est jamais que la tentation de l'incrédulité. Dans cette épreuve, puis-je faire confiance au Seigneur? Pour mon avenir professionnel, sentimental, familial, puis-je faire confiance au Seigneur? Vous savez ce que dit le psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et je vois que vous connaissez bien la Bible, et l'Éternel, et il le délivre de toutes ses détresses. Toutes ces épreuves, ces tentations, ces questions sont permises par le Seigneur pour nous apprendre à compter sur lui, pour affermir notre foi. Ce n'est pas lui qui les envoie, mais il les permet. Parce que ces épreuves, ces tentations, ces questions que nous avons sont envoyées par Satan pour au contraire, lui, nous faire chuter et nous détourner éventuellement du Seigneur. C'est ce que dit Pierre dans son épître, 1 Pierre 5,8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et c'est, je dirais, pour cette simple raison qu'il y a des tempêtes dans nos vies. Et nous avons donc besoin de compter sur le Seigneur. Parce qu'effectivement, pour les disciples de Jésus dans cette barque, ce n'est pas le risque de naufrage qui est à redouter, mais bien la tentation de l'incrédulité, de ne pas avoir foi. Et pour nous, c'est la même chose. Allons-nous faire confiance au Seigneur? Ou bien on s'agite, on s'inquiète? On se polarise sur le problème, on se polarise sur la difficulté et on oublie que le Seigneur est avec nous. Il est avec nous quoi qu'il arrive. Il nous l'a dit dans Matthieu 28 au verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une belle promesse, hein, n'est-ce pas? Avons-nous cette foi de croire que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Dans le psaume 91, au verset 13, il est dit: Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Et le lion et l'aspic, dans la parole de Dieu, sont souvent une image de Satan. Nous connaissons notre adversaire et nous savons que Jésus l'a vaincu. Donc nous n'avons pas de crainte à avoir ni d'angoisse à entretenir. Mais nous savons aussi que l'Église est toujours la cible principale de Satan. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne l'intéressent pas. Ils sont déjà dans son camp. Ce sont donc les chrétiens que Satan va cibler. Parce que parfois, enfin je dirais plutôt, c'est pourquoi l'Église doit être un lieu où on ne se joue pas des principes bibliques. Parce que là, on ouvre une porte à l'ennemi qui ne manquera pas de s'engouffrer et de semer le doute et la discorde. Alors excusez-moi, mais je suis obligé de revenir et de corriger publiquement une parole qui a été dite dimanche dernier, qui disait « le ministère pastoral est inutile ». Laissez-moi vous expliquer l'erreur, sinon la faute, qui est contenue dans ces quelques mots. Dans la Bible, là il faudrait mettre les diapos, il y a trois donateurs, trois types de dons et trois donateurs. Il y a d'abord le Père, le don du Père à l'humanité. Il y a ensuite les dons du Fils à l'Église et les dons du Saint-Esprit aux chrétiens. Alors le don du Père à l'humanité, tu peux mettre la suivante. Nous savons ce que c'est, n'est-ce pas? Nous savons qui c'est plus exactement. Il s'agit de Jésus lui-même qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. C'est Dieu qui l'envoie et c'est Jésus qui accepte de venir. Vous connaissez ce texte par cœur de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît ce texte par cœur et parfois tellement par cœur qu'on en oublie la profondeur, le sens réel. Dieu a tant aimé le monde. Il ne pouvait pas faire plus par amour que de donner son Fils. Et dans la discussion que Jésus a avec la femme samaritaine au puits de Jacob, il lui dit: si tu connaissais le don de Dieu, de quel don parle-t-il là? De lui-même, Jésus qui a été donné en don à l'humanité pour le salut de quiconque croit en lui. Alors je continue avec les dons du Saint-Esprit, parce que je veux m'étendre un peu plus sur les dons de Christ à l'Église. Bon, les dons du Saint-Esprit, nous les connaissons. Vous voyez, vous trouvez tout ça dans 1 Corinthiens 12. Il y a les dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Il y a les dons de puissance, dons de foi, dons d'opérer des miracles, dons de guérison, et les dons d'inspiration, dons de prophétie, dons des langues et d'interprétation des langues. On a parlé de tout ça les derniers jeudis des études bibliques, où on a parlé justement du Saint-Esprit. Et donc, maintenant je voudrais venir sur les dons que Christ fait à l'Église. Et là nous lisons dans la version du Semeur, Éphésiens 4:12, c'est lui qui a fait don de certains, comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, et enseignant ou docteur. Il a fait don pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service afin de la construction du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église. Et dans l'Ancien Testament, déjà, il y avait des hommes qui étaient mis à part pour le service de la tente d'assignation. Dans Nombre 18, il y a un écho là qui est un peu... Dans Nombre 18, au verset 6, il a dit « Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. » Et aujourd'hui, le Seigneur agit de la même façon. Il y a des frères, des sœurs qui sont remis en don pour faire le service de l'Église. Et là, nous comprenons l'importance de ces ministères qui ne sont pas donnés à tous les chrétiens, mais à ce que Dieu appelle spécifiquement à l'un de ces ministères. Et pourquoi je dis que ce sont les dons de Christ? Parce que ces ministères, c'est Christ lui-même qui se donne à l'Église. Parce que c'est Christ qui est l'apôtre par excellence. Regardez ce qui est dit dans Hébreux 3, versets 1 à 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Donc ici, vous voyez, l'apôtre, c'est Jésus. Il est présenté comme l'apôtre qui a été fidèle dans tout son ministère. Quand il est question du prophète, c'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Et ce prophète dont Moïse parle ici, c'est Jésus. Évangéliste, toute la foule venait à lui et il les enseignait, il les évangélisait, il leur annonçait la bonne nouvelle. En ce qui concerne les pasteurs et docteurs, je suis le bon berger. On va faire mieux, c'est Jésus qui le dit de lui-même. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et puis, à propos des docteurs, il enseignait dans les synagogues, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés. Alors voyez-vous, c'est lui, Jésus, qui est complet dans ses cinq ministères, dans toutes les dimensions de ce ministère, et qui donne à l'Église, à travers des hommes et des femmes, ses ministères, pour que le ministère de Christ se prolonge dans l'Église, pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ, comme il est dit donc en Éphésiens 4:12. Comment donc est-ce possible de prononcer une telle parole qui contredit à l'évidence la parole de Dieu? Surtout que dans la période où il n'y a pas eu de pasteur ici, on avait 111 membres inscrits à l'Assemblée générale de 2020, et deux ans et demi plus tard, même pas un an et demi plus tard, il y avait 12-15 personnes occultes. Donc on voit bien que le ministère du pasteur à sa place. L'Église a besoin du ministère de pasteur, comme tous les autres ministères. Et parfois, justement, ce sont eux aussi qui manquent. Et c'est pour cela que Francis et moi, nous sommes venus. Pour que le ministère pastoral puisse retrouver sa place. Et c'est pour cela aussi que nous avons fait appel à Timothée, qui prendra notre place, lui qui est jeune, pour assurer ses fonctions à partir du 1er août avec sa famille et pour contribuer au perfectionnement des saints de l'Église du point du jour. Amen. Alors bien sûr, comme je disais, il y a des tempêtes de temps à autre. Il y en aura toujours. Tant que nous serons sur la terre, dans ce monde déchu, il y aura des tempêtes. Le problème, c'est la manière dont nous les affrontons. La manière dont nous faisons face à ces tempêtes. Et je répète ce que Jésus a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors d'autre part, voyez-vous, Dieu est très attentif à ceux pour lesquels il a fait le don de son Fils. Parce que, vous voyez, depuis la chute, Dieu cherche l'homme. À l'instant même où l'homme a péché, en se détournant de Dieu, Dieu entreprend de le rechercher. Parce que malgré sa désobéissance, Dieu offre un nouveau plan de salut. Vous savez, dans la Bible, j'ai dit déjà plusieurs fois, il y a, à mon avis, deux cris, d'une certaine manière, qui déchirent les cieux. Des cris tragiques qui expriment toute la douleur de Dieu, qui expriment toute la profondeur du drame qui s'est noué lorsque l'homme et la femme se sont détournés de leur Créateur. Et le premier cri de Dieu, c'est « Où es-tu ? » Vous vous souvenez dans le jardin de Gethsémané, dans le jardin d'Éden plutôt, alors que l'homme et la femme viennent de désobéir, Dieu les cherche. « Où es-tu ? » Il fuit l'homme et la femme, il se cache. Mais Dieu sait très bien ce qui s'est passé. Il sait très bien qu'ils ont désobéi. Mais il les appelle dans un cri de désespoir. « Où es-tu ? » Ils n'abandonnent pas en disant « Ils ont péché, tant pis pour eux. » Ils continuent à prendre soin d'eux. Ils les couvrent avec des vêtements faits en peau de bête, maintenant qu'ils sont conscients de leur nudité. Et qu'ils prennent en même temps conscience de leur nudité spirituelle, parce que la relation avec Dieu est coupée. Ils continuent de prendre soin d'eux, et même, il leur offre un avenir. Et nous trouvons cela au chapitre 3 de la Genèse, au verset 15. Dieu leur offre déjà un avenir. Et que dit-il à la femme, à Satan plutôt, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Quelle est la postérité de la femme dont il est question ici? C'est Jésus lui-même. Et voyez-vous, déjà là, Dieu annonce que Satan sera vaincu, la tête écrasée par Jésus lors de sa résurrection d'entre les morts. Alléluia! Certes, Jésus a été cruellement blessé, mais il n'a pas abandonné. Et le deuxième cri tragique que nous entendons dans la parole de Dieu, c'est celui que Jésus prononce sur la croix, Matthieu 27, 46, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À cause de notre péché, à cause de la chute, Jésus a été sur la croix, subir la pire épreuve qu'un homme puisse endurer. Voyez cette prière de Gethsémané, la nuit de son arrestation, dans Matthieu 26, 38. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ce que tu veux. » Sur la croix, Jésus, chargé du péché de l'humanité, en cet instant précis, Dieu l'a abandonné. Abandonné son Fils unique, parce qu'il ne pouvait supporter la vision de son Fils chargé, couvert du péché de l'humanité. Et je l'ai déjà dit ici, Jésus a été abandonné pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Est-ce que vous mesurez cela, frères et sœurs? Et même justement dans les pires épreuves, Dieu ne nous abandonne pas parce que Jésus a été abandonné pour nous. Et il nous prépare un avenir. Je pense que tout le monde aussi connaît ce texte de Jérémie 29, 11, qui nous fait toujours très plaisir. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et dans l'épreuve, dans la tentation, le Seigneur prépare toujours le moyen d'en sortir. C'est ce que nous dit encore l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10 au verset 13. « Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » C'est jamais au-delà de nos forces. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Voilà l'espérance que nous avons en Dieu, l'espérance qu'il nous réserve, à laquelle il nous appelle. Est-ce que nous voulons saisir cette espérance qui est en Jésus-Christ? Ne pas nous laisser dominer par les épreuves et par la tentation, mais accepter que le Seigneur permette que nous soyons tentés, que nous soyons éprouvés, pour que nous apprenions à dépendre de lui chaque jour davantage. Amen. Amen. Bénissons ton nom, Seigneur, ce matin ensemble, de ta fidélité envers nous. Nous sommes tellement émerveillés de voir comment tu prends soin de nous, comment dans ton amour, alors que tu avais un plan tellement glorieux pour Adam et Ève, pour l'humanité, malgré la chute, tu reviens vers nous. Et lorsque nous sommes découragés, même lorsque nous avons péché, tu nous dis, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour et nous te prions de nous garder fidèles jusqu'à la fin. Fidèles à travers les épreuves, fidèles peut-être même à travers la persécution, pour que nous puissions être avec toi dans la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant partager le repas du Seigneur. C'est notre frère Adnan qui va nous conduire.